Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Le 21 mai dernier, lundi de Pentecôte, pour aller prier Marie, mère de l'Église, près d'une centaine de fidèles du diocèse d'Albi se faisaient pèlerins, marcheurs de Dieu. Bâton à la main, bannière au vent, depuis la cathédrale Sainte-Cécile, ils ralliaient comme chaque année ce jour-là, sur les hauteurs d'Albi, le sanctuaire de Notre-Dame de la Drèche. Tout autant expression d'une foi populaire ancestrale que d'une église vivante et en marche, ce pèlerinage 2018 s'inscrivait en action de grâce du grand événement des paroisses renouvelées, faire correspondre les paroisses avec les réalités d'aujourd'hui, avec celles d'une église pèlerine. Partir, c'est rejoindre d'autres hommes, d'autres femmes, qui eux aussi ont décidé de prendre la route. C'est se sentir frères les uns des autres. Partir, c'est se mettre en marche, aujourd'hui, et accepter le don de Dieu. Andrea.
J'aime bien le pèlerinage, et puis quand même, moi je trouve que c'est un renouveau, un renouvellement de beaucoup de choses, de foi. On parle de beaucoup de choses, et on voit des gens qui n'étaient pas même tout près de l'église et qui maintenant justement se rassemblent, aiment ces rassemblements. Donc je pense que ça doit les aider à améliorer leur foi et à vivre quelque chose avec d'autres personnes. En fait, retrouver Marie et Dieu, c'est quand même rassurant. Et puis ça donne beaucoup d'énergie, beaucoup d'assurance pour moi. Moi, c'est nécessaire pour moi. Alors donc, mais peut-être tout le monde ne le voit pas de la même manière.
Ça, donc, c'est un moment de rencontre, un moment de partage aussi.
Ah oui, oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Les gens se retrouvent avec d'autres personnes qui n'ont jamais vu ou qui doutaient un petit peu. Ils ne savaient pas ce que c'était qu'un pèlerinage et qu'est-ce que l'on vivait. Voilà. Et moi, j'aime bien ça, de toute façon. Ça me réconforte dans beaucoup de choses. Ça détend en plus la marche. Ça permet de réfléchir avec soi-même. Se poser, voilà. On peut se livrer plus facilement à soi-même et finalement dire, tiens, bof, je peux y arriver à faire certaines choses. Mais évidemment avec l'aide de Marie, si elle veut bien m'aider.
Vous avez un lien particulier à Marie ?
Non, mais je la mets souvent, pas en cause, mais souvent je l'invoque parce qu'en fait, c'était une femme aussi, elle a eu énormément de problèmes, elle les a acceptés. Moi, je ne sais pas si j'aurais eu le courage d'en faire autant. Parce que vraiment, elle ne comprenait pas tout. Mais avec l'aide du Seigneur, elle a accepté. Voilà. Mmh. Elle est devenue mère, donc c'est quand même beau. Bon.
Partir, c'est s'exposer à la nouveauté, à la surprise, à la différence, à la rencontre. Rien ne dit à l'avance qui on rencontrera. Partir, c'est aussi perdre des repères, dans l'espérance parfois immense ou folle de tout gagner. Maurice.
Comme je suis nouveau dans le coin, je ne connais pas déjà la région. Hein, et ça me donne une occasion de pouvoir voir et de voir d'autres gens. Mmh. Voilà.
C'est à la fois une démarche, donc si je vous comprends bien, une démarche personnelle, mais aussi communautaire.
Communautaire, de rencontre.
Et un pèlerinage pour vous, qu'est-ce que... qu'est-ce que c'est? C'est un moment, c'est une pause, c'est un ressourcement, c'est... Qu'est-ce que ça représente le pèlerinage pour vous?
Oh, c'est surtout un gros ressourcement, une grosse pause, parce qu'on peut voir les choses différemment.
Au XIIe siècle, à 5 km d'Albi, près de Cagnac-les-Mines, au milieu d'un buisson, la Vierge Marie apparaît à des bergers. En ce même lieu est découverte une statue d'une Vierge à l'enfant, et c'est là le début d'un pèlerinage local qui, en dépit des vicissitudes de l'histoire, attira au cours des siècles des foules de pèlerins. Sur le chemin, nous rencontrons Claire, l'une des mémoires du sanctuaire, qui, tout à côté, a la charge de l'abri du pèlerin.
J'y habite, donc c'est vrai que j'ai eu l'occasion de découvrir Notre-Dame de la Drèche. Je ne comprenais pas son architecture longtemps, parce que elle est de type moyenâgeux, mais du 19e siècle, je ne comprenais pas son style. Jusqu'au jour où j'ai découvert une lithographie qui montrait la vieille église de la Drèche, qui est une forteresse en pierre, qui a hébergé les Anglais pendant la guerre de Cent Ans. Cette vieille église, qui a été finie 10 ans avant la cathédrale d'Albi, et ressemble étonnamment à la cathédrale d'Albi, à croire qu'elle a servi de modèle à la cathédrale d'Albi. Mais elle est en pierre, comme tous les vieux bâtiments d'Albi, comme Saint-Salvi, le Pont-Vieux, elle est en pierre, avant qu'on ne comprenne comment bâtir en briques solidement. Donc, quand j'ai compris que l'origine de la Drèche, c'était cette vieille forteresse du 12e, du 13e siècle, parce qu'il y avait déjà eu une première église pour abriter une statue remarquable. Alors toute l'histoire de la Drèche repose sur l'histoire de cette statue qui a été découverte au XIIe siècle par des petits bergers dans ce package des Hauts d'Albi. Et ils ont vu un religieux qui priait devant une image, une statue, c'est pas très, très net, mais enfin, qui était dans un arbre. Le religieux est parti en laissant l'image, la statue, qui a été vénérée tout de suite et qui a... Cette vénération a produit des fruits étonnants de conversion, de guérison. Et très vite, un pèlerinage s'est organisé. On a fait une première église. Et au XIIIe siècle, on a fait donc cette église ancienne qui a été terminée 10 ans avant la cathédrale d'Albi. Il y a eu un tel succès de pèlerinage. Il y a eu des ex-voto, des guérisons, des miracles même qu'on ne recensait pas comme à Lourdes maintenant, mais de véritables miracles. Et toutes les familles de l'Albigeois peuvent raconter une grâce que Marie a faite dans leur famille. Donc, au XIXe siècle, se sont installés les religieux du tiers ordre de Saint-François. J'abrège un peu parce que ce serait trop long. Et là, ils ont voulu agrandir l'église, la vieille église, et ils ne l'ont pas détruite, ils l'ont incorporée. La vieille église, ce qu'il en reste, est au-dessus du chœur et du jubé de l'église actuelle. Et cette église est en neuve à l'époque, en 1860. Il a fallu la peindre, et c'est un élève de Ingres, Benazet, qui avait fait les cartons. Et c'est un religieux qui, pendant 17 ans, a reproduit sur les murs de la Drèche les cartons que faisait ce peintre Benazet. Voilà, c'est pour ça que maintenant ces peintures sont classées au monument historique et la Vierge a été placée au-dessus de l'autel, la Vierge originelle qui est du 12e siècle, une des plus anciennes Vierges en bois de France, puisqu'elle a été sauvée pendant la Terreur. Pendant deux jeunes filles qui l'ont enterrée sous un figuier pour qu'elle ne soit pas détruite par les révolutionnaires qui ont tout cassé dans cette église. Voilà, cette église a eu beaucoup de visites remarquables. On dit que Saint Bernard y serait venu, et surtout Saint Dominique, qui est venu puisque pour lutter contre les cathares dans cette fameuse guerre des Albigeois, il est venu prier au pied de cette statue qui représente exactement ce pourquoi il luttait, c'est-à-dire l'incarnation du Verbe de Dieu. Et là, Marie tient l'enfant Jésus entre les genoux comme une naissance, et elle le donne au monde, et c'est assez remarquable comme statue.
Notre-Dame de la Drèche, le nom de la Drèche,
ça vient d'un vieux mot occitan. Il faut revenir à l'origine. Quand on est dans une vallée, dans une montagne, il y a le côté à l'ombre, l'ubac, et le côté au soleil, l'adré. Et en occitan, l'adré a donné la Drèche. Alors certains disent que c'est à cause de la côte droite, d'autres ont dit c'est à cause de la Vierge qui se tient toute droite, mais je pense que l'origine c'est plutôt géologique.
Et c'est un sanctuaire qui est cher au cœur des Albigeois.
Très cher, parce que c'est le pèlerinage de toute la terre albigeoise. Souvent, on nous demande si c'est un chemin de Saint-Jacques. Sûrement, il y a eu des passagers de Saint-Jacques, mais ils ne s'arrêtaient peut-être pas particulièrement à la Drèche, puisque le pèlerinage de la Drèche, très ancien, depuis le XIIIe siècle, c'est la Drèche.
C'est originaire d'Albi, et voilà, ça me rappelle mes pèlerinages quand j'étais enfant.
Marie-Thérèse. Non, c'est un pèlerinage qui vous tient à cœur et qui a une place peut-être particulière.
Oui, parce qu'on est bien, très attaché à Notre-Dame de la Drèche. Ça a toujours été un lieu de paix où j'aimais aller me recueillir, ou quand j'avais un souci, le confier à la Vierge. Voilà, donc c'est vrai que je suis très attachée à Notre-Dame de la Drèche.
C'est un pèlerinage local, et c'est un pèlerinage local qui enracine les fidèles, les paroissiens, tous les diocésains. C'est un pèlerinage qui rassemble l'esprit de nos diocèses.
Voilà, et tout particulièrement cette année, puisqu'on a les deux paroisses d'Albi qui sont réunies pour ce pèlerinage. Donc voilà, c'est un temps fort, surtout suite à la journée d'hier. On sent vraiment le souffle de l'esprit.
Cette journée de hier, qu'est-ce que c'était? Vous pouvez nous en parler?
Bon, c'était une très belle journée, je trouve. Un très beau rassemblement, car il y avait beaucoup de monde, de tout le diocèse. Donc ça, c'est une richesse de pouvoir se retrouver des quatre coins du département comme ça. Voilà, je crois que l'esprit a vraiment soufflé.
Ce sont des paroisses qui ont fusionné? Qu'est-ce que c'est?
Non, c'est non. Le père évêque qui a souhaité... remodeler le diocèse, on va dire, en paroisse au lieu de secteur, et avec un nom très particulier pour chacune. Ça, c'est très nouveau.
La vôtre, par exemple?
Ah non, nous, la nôtre, elle n'a pas changé. Sainte-Cécile reste Sainte-Cécile. Sainte-Madeleine reste Sainte-Madeleine. Mais après, dans tout le diocèse, voilà, je ne vous le dirai pas tout, parce qu'il faudrait que j'ai le petit livret. Il y a même des saints que je ne connaissais pas, comme Saint-Tixte, je crois. Voilà, mais c'est...
Et qui disent justement ce que nous disions auparavant, quelque chose de cette piété, de cette dévotion locale qui enracine des populations et qui les rassemble, qui les fait se rencontrer.
Tout à fait. Puis il y a des secteurs où ils ont pris le temps, je crois, de réfléchir sur le nouveau nom à donner et pourquoi ils le donnaient. Je pense particulièrement à Carmaux, puisqu'on a interrogé hier soir le père Xavier pour savoir pourquoi ils avaient choisi ce nom de Saint-François et Sainte-Claire, parce qu'on ne voyait pas trop le lien avec Carmaux. Mais voilà, il nous a expliqué comment c'était toute une réflexion qui avait été menée avec les paroissiens, et ils en étaient venus à ce nom pour sortir un peu des clichés de Sainte-Barbe, Saint-Benoît, voilà. Donc c'est très beau, je trouve.
Et donc aujourd'hui, au lendemain de cette belle journée, ce pèlerinage, c'est une action de grâce aussi?
Tout à fait, bien sûr, on peut le voir comme ça. Puis en plus, avec cette fête particulière à partir de cette année de Marie, mère de l'Église, je crois que voilà, c'est tout son sens suite à cette rencontre d'hier qui a vraiment manifesté notre église diocésaine dans son entité. Et je trouve que ça clôture bien ce week-end.
Qu'est-ce qui te pousse? Quelle est la secousse qui a décidé pour toi de ce chemin? La source vive, celle qui te motive, a-t-elle jailli d'un seul coup sous ta main? Pour que ta quête un jour te projette tout seul, ça court.
Partir, c'est aussi faire une pause dans le rythme fou de la vie ou dans celui de l'ennui, dans le rythme des soucis ou de la solitude. Partir, c'est être ouvert à la rencontre.
Alors, je suis Jean Chamaillou et je suis donc président de RCF Pays Tarnais.
Voilà. C'est un grand honneur aujourd'hui de vous avoir au micro de Radio Présence. Voilà. Donc, alors, vous êtes au micro de Radio Présence parce que nous sommes aujourd'hui, alors c'est le lundi de Pentecôte, et un certain nombre de pèlerins, près de 80 personnes, se dirigent vers Notre-Dame de la Drèche. C'est le pèlerinage à Notre-Dame de la Drèche. Vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a mis en route en ce début d'après-midi?
Bah écoutez, c'est mon attachement à la Vierge Marie, d'autant qu'aujourd'hui, lundi de Pentecôte, officiellement est une journée qui est dédiée à la Vierge Marie. Et nous profitons de ce pèlerinage pour prier la Vierge Marie. Voilà, c'est tout simple.
D'autant plus qu'en ce lundi de Pentecôte 2018, nous fêtons une nouvelle fête, Marie, mère de l'Église. Et je me disais, en regardant tous ces pèlerins qui se sont mis en route depuis la cathédrale Sainte-Cécile, que c'était à la fois une démarche individuelle, mais aussi une démarche communautaire. Et quelque part, il y avait, on pourrait dire, quelque chose de l'Église en marche.
Oui, tout à fait. C'est, c'est la suite de, enfin pour nous, Albigeois et Tarnais, c'est quand même la suite de la grande manifestation qui a eu lieu hier à la cathédrale d'Albi, qui a rassemblé 800 personnes et qui a été l'occasion pour notre père évêque de redéfinir les nouvelles paroisses. Donc ça a été un moment de prière important et un moment également festif. Et les catholiques ont fait preuve de leur vitalité, de leur bonne humeur, de leur joie de pratiquer l'Évangile.
J'en reviens au pèlerinage. Le pèlerinage, c'est aussi peut-être un métier d'évangélisation. C'est l'expression d'une piété populaire. On peut se retrouver, se rassembler dans un pèlerinage. Alors chacun avec ses motivations. Et...
Oui, tout à fait. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Ce matin, nous avions une messe à Villeneuve-sur-Vert, dans le village dans lequel j'habite. Et pourquoi cette messe? Parce que c'était l'occasion de renouveler un vœu que les habitants de la paroisse de Villeneuve-sur-Vert avaient fait il y a très longtemps, puisque ce vœu remonte au Moyen-Âge. En 1630, période où il y a eu une peste très importante sur l'Albigeois, et les habitants de cette commune se sont tournés vers la Vierge en la priant de bien vouloir les aider à éviter cette épidémie. Et apparemment, ils ont été exaucés, ils ont fait le vœu de faire un pèlerinage chaque année, le lundi de Pentecôte, dans une église qui est proche du cœur du village, qui s'appelle Notre-Dame de la Gardelle. Et donc, ce pèlerinage s'est poursuivi. Alors, pas tout le temps, parce qu'il y a eu la Révolution, l'église a été vendue, elle est comme bien national. Elle a été fermée, transformée en grange, et vers 1830 à peu près, la municipalité a racheté cette église et a réouvert, avec l'autorisation de l'évêque de l'époque, a réouvert la possibilité de faire ce pèlerinage. Et ce pèlerinage s'est poursuivi. Mais vous savez que pendant la Révolution, comme l'église avait été vendue, les habitants ne se sont pas démontés, si je puis dire, ils sont partis en pèlerinage à Notre-Dame de la Drèche. Voilà, bon, qui est quand même distant d'une dizaine de kilomètres du village. Donc 10 kilomètres à l'aller, 10 kilomètres au retour. Mais bon, c'est, vous voyez, cette piété, cette ferveur qui se maintient.
Et c'est un maillage territorial aussi.
Mais tout à fait. C'est ces pratiques locales, cette piété locale, ce recours à Marie, ben, voilà, qui est bien présent dans toutes nos campagnes, dans tout ce milieu rural et peut-être un peu moins dans les villes. Mais en tout cas, en milieu rural, c'est quand même très sensible encore. Pour le moment, on verra bien ce que feront nos plus jeunes, nos successeurs.
On va reprendre notre souffle parce que je crois que la montée va être rude. Et on se retrouve tout à l'heure. Merci. Et nous avons attaqué la montée vers Notre-Dame de la Drèche. Le pas se fait un peu plus lent.
des conversations aussi. Et chacun médite dans son cœur, tout comme Notre-Dame de la Drèche, que nous allons retrouver dans, au bout de ce chemin.
Un chemin balisé par les portes d'eau.
Monsieur Padeau, toujours.
Ah, c'est
un petit peu la dame, vous en offre.
C'est une exception.
Merci.
Non, mais il y en a pour
c'est
tout le monde.
C'est le dernier groupe, là.
Oh, je pense que c'est les derniers, oui.
Qu'est-ce que vous faites, là?
On donne de l'eau.
C'est très bien.
La voiture balai, la voiture, les gens fatigués.
On n'est pas de mariage.
Vous avez l'autre verre, s'il vous plaît, madame.
On a la queue de même.
D'accord, d'accord, mais ça va, ça va. C'est pour monsieur.
On s'arrête pas, il faut rendre le gobelet, là.
On ralentit. On ralentit. On ralentit. Il y a plein de monde là qui monte à pied. Il n'a pas l'air de vous croire.
Il s'en fout.
Et un chemin balisé par les temps de halte, de prière, de chant et d'émerveillement devant les beautés de la création.
C'est un églantier, ça c'est un églantier. Quant à ça, je ne sais pas ce que c'est. Mais pour l'instant, il y en a partout, ils sont fleuris. Ça, vous voyez, là, il est passé un peu. Mais sans ça, ça fait des fleurs, ça fait des arbustes.
Et ça sent très bon.
C'est le cigala, là. Hein. C'est ça, le cigala, les plateaux blancs.
Ah, ben, tous les
jaune clair.
Tous les plateaux calcaires.
Là, on est à la limite.
Albi, c'est la limite du cigala. C'est au-dessus, c'est vers, vers chez nous. Tout ce qui est le cosse calcaire. Et en dessus. Ce qui sent aussi beaucoup, c'est le chèvrefeuille.
C'est
la Drèche, on la voit. On la voit entre les deux arbres. Vous voyez le clocher entre les deux arbres?
Ah d'accord, je vois, oui.
À peine si on la voit.
Je vois, oui, oui. Oh, mais c'est encore un petit peu loin.
Oh oui, mais bon. C'est tout plat, là. Enfin, c'est à peine un peu comme ça, c'est fini. Enfin, oh oui, ça fait un... il reste encore un petit bout de chemin, mais pas...
Nous arrivons enfin au sanctuaire. Sur le seuil de l'abri du pèlerin, Claire nous fait signe.
Je voudrais vous montrer. Voilà la vieille église.
Voilà, vous voyez, c'était la vieille église de la Drèche jusqu'en 1860. Et alors, venez voir par ici le plan. Vous comprendrez mieux l'histoire de l'église, voyez. Alors, c'est cette vieille église qui a été incorporée dans l'église actuelle. Vous voyez le plan, si vous savez lire un plan. Voilà la vieille église ici. Et derrière, vous voyez, elle devait être haute et petite. Et ils ont construit cette énorme église devant. Parce qu'il y avait beaucoup...
forteresse, un petit peu.
C'est une église forteresse au début, vous voyez. Ouais. Et alors, ils ont gardé le style forteresse pour l'église de 1860. C'est pour ça que ça a ce style. Autrement, ça ne se comprend pas. Une forteresse en 1860, ça n'a aucun sens.
Non, mais... ça n'avait plus de sens, non.
Mais ils l'ont fait parce qu'ils ont voulu garder le style, vous voyez. Alors, quand on comprend ça, c'est important. Et alors, ce que je vous disais de la statue, c'est une statue très remarquable de type roman, vous voyez, regardez.
Alors, c'est celle-ci, non, c'est pas une vierge noire, non.
Elle était vierge noire parce que la peinture était partie. Ah, oui. Les vierges noires, ce sont des vierges qui n'ont plus de peinture ou qui ont été sculptées dans un bois noir. Mais souvent, c'est parce que... elle était devenue vierge noire parce que la peinture s'était tout effacée. Alors, quand elles n'ont plus de peinture, on dit que ce sont des vierges noires. Mais en réalité, on la repeint quand on a refait l'église récente. Enfin, on l'a repolychromée comme elle était au Moyen-Âge. Alors, vous voyez, elle est très typique de l'art roman.
Et elle est très belle. Elle a un visage très doux, très serein.
Oui, mais enfin, pas tellement. C'est pas le visage, justement, il prenait des paysannes de l'époque. Ouais. Il fallait s'adapter... Au sens de la statue. C'est comme le Jésus, il est très vilain, parce qu'on lui faisait un visage d'homme, comme dans les icônes. Oh. Il est accompli, c'est un homme accompli, on ne lui faisait pas un visage d'enfant, alors ça fait drôle. Non, c'est pas
voyons
ça.
Voyons que je regarde. Oui, effectivement. Oui. Oui, oui.
Non, 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 ah, si oui. Vous le regarderez, elle est au-dessus de l'autel. Mais ce qui est remarquable, c'est la position de l'enfant Jésus entre les genoux. Parce que les femmes accouchaient sur des trônes, sur les trônes de la sagesse, elles accouchaient sur des... Oui, merci. Ah oui, je l'avais laissé. Et au Moyen-Âge, toutes les vieilles statues, vous voyez celle de Rocamadour là-bas, c'est les vierges romanes, étaient très crues, elles représentaient l'incarnation, vous voyez, c'était les vierges, voilà, elles mettaient au monde leur enfant. Et alors les vierges très anciennes sont toujours avec l'enfant, puis après elles auront l'enfant sur les genoux, sur les bras, ce ne sera plus la même signification. Voilà.
D'accord, et vous, c'est vous qui vous occupez, qui tenez l'abri du pèlerin.
Voilà, on a une... Oui, voilà.
Alors, moi, l'abri du pèlerin, donc vous présentez...
On a repris un peu ce qu'avaient fait les sœurs, il y avait des sœurs, on a repris un peu une boutique, mais on vit là. On est une petite communauté de vie issue d'une communauté plus importante. Et puis maintenant, on est réduit à deux parce que mon mari est mort et puis le frère qu'on avait été âgé est parti. Mais voilà, on tient ça à deux, mais on a des gens qui nous aident.
Mm-hmm. C'était une communauté de vie, une communauté de vie fraternelle.
Oui, ça fait 40 ans qu'on était dans une communauté de vie, puis on a évolué. Il y a des gens qui sont partis, qui sont morts. Enfin bon, c'est un petit reste. Alors on a un petit lieu d'accueil.
Et il y a des pèlerins qui passent?
Alors, les pèlerins, figurez-vous, c'est des touristes. Parce que des pèlerins, il n'y en a plus trop. Le pèlerinage que vous voyez aujourd'hui, c'est le seul qui reste sur Albi. C'est pour ça qu'il est important.
Quelques instants plus tard, sous la protection de Marie, mère de l'Église, et conduite par l'Esprit-Saint, une multitude de fidèles rejoignait les pèlerins. Au cours d'une messe festive célébrée par Mgr Legré, ils faisaient monter dans une belle action de grâce toute leur confiance en une église diocésaine renouvelée.